Bonsoir à tous, bienvenue à la BPI au Centre Pompidou. Dans le cadre des conférences organisées par le service Savoir Pratique et dans le cadre du cycle Oser la Récup, nous vous proposons ce soir la conférence Oser les low-tech pour une innovation sobre et durable. Dans un contexte climatique de plus en plus alarmant, les low-tech proposent des solutions utiles, accessibles, durables pour répondre aux besoins du quotidien et font appel à la créativité. Cette philosophie de vie et ces technologies sobres, résilientes et durables sont-elles l'avenir ? Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Biwix, ingénieur et auteur de L'âge des low-tech et plus récemment du Bonheur était pour demain. Et également avec nous ce soir, Pierre-Alain Lévesque, ingénieur également et cofondateur du Low-Tech Lab. La conférence de ce soir est diffusée en direct sur le site de la BPI et vous pourrez la retrouver en ligne puisqu'elle est filmée d'ici environ un mois sur la Web TV et sur la chaîne YouTube de la BPI. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci, bonsoir. Bravo pour avoir bravé la canicule et n'être pas resté la tête dans votre congélateur. Même si là, on a un grand congélateur aussi, avec les portes ouvertes, d'ailleurs, j'ai pu constater en arrivant. On va essayer de passer une toute petite heure, tous les deux, avec Pierre-Alain, à vous expliquer un peu ce que sont ces histoires de low-tech. Alors, désolé pour cet affreux anglicisme, on pourrait parler en français de technologie sobre, agile, résiliente, autonome. Donc moi, je vais plutôt vous parler un peu de pourquoi les low-tech, enfin comment on en est venu un peu à essayer de développer ce concept-là, cette idée-là un petit peu, peut-être un petit peu disruptive par rapport au temps présent, hein, où on est plutôt au contraire à tout miser sur le high-tech, sur la technologie, hein, qui va nous, peut-être nous sauver d'un certain nombre d'inquiétudes diverses et variées. Et puis Pierre-Alain sera plus peut-être sur des exemples et des idées plus concrètes, même si il y a aussi beaucoup d'aspects philosophiques, je pense, dans la démarche du Low-Tech Lab. Alors pourquoi les low-tech et quel peut être l'intérêt des low-tech ? Donc effectivement, on vit dans un moment un petit peu étrange. Alors peut-être d'ailleurs que chaque génération a l'impression de vivre dans un moment étrange. Je ne sais pas, les gens qui vivaient dans les années 30, c'était sans doute dans un moment étrange, les gens dans les années 60 aussi, pour différentes raisons. Mais notre étrangeté, elle consiste en fait à avoir un discours très fort aujourd'hui de l'ensemble des médias, des chercheurs, des entreprises, sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de puissance de recherche. De recherche et développement, d'invention, de nouvelles technologies, et donc qui vont quelque part permettre de répondre à toute une série d'enjeux, on dirait d'enjeux de développement durable ou d'enjeux environnementaux. D'ailleurs, quand vous faites une conférence des parties, une COP, hein, comme on a fait à Paris en 2015, la COP21, vous aviez au Grand Palais la galerie des solutions. C'était des entreprises qui venaient exposer leurs solutions. Donc ça exprime bien cette question du fait qu'on a plein de solutions. Donc voilà, on a toutes les solutions à notre disposition pour sauver la planète, je dirais. Hein. Donc alors ça peut être la voiture électrique ou la voiture autonome, ça peut être les énergies renouvelables, ça va être le numérique qui permet de faire une économie du partage, une économie de la fonctionnalité. On va se prêter les objets, on va se mettre ensemble dans des voitures, faire du covoiturage, qui fait qu'on va économiser de l'essence ou de l'électricité, etc., etc. Et on parle même, pour les plus prospectifs, on va même plus loin, on parle de dire, bah oui, comme pour le climat, le coût est déjà parti, ça va se réchauffer quoi qu'il arrive, même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, ça continuerait à se réchauffer, l'océan continuerait à se dilater, etc. Du coup, on pourrait peut-être prendre en charge la planète par géo-ingénierie. Hein, donc, on va jusque-là. Et puis, vous avez même des entrepreneurs un peu californiens ou d'obédience californienne, on va dire, à la Elon Musk ou Jeff Bezos, qui, voilà, il y en a un qui veut terraformer Mars, l'autre veut conquérir la galaxie, envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans la galaxie. Donc, vous voyez qu'on a vraiment ces promesses que j'appellerais des promesses cornucopiennes, hein, cornucopia, la corne d'abondance, sur le fait que grâce à la technologie, on va pouvoir continuer à consommer, à avoir le niveau de confort, de plaisir, je dirais, matériel qu'on peut avoir aujourd'hui, enfin que de plus en plus, en tout cas, de personnes ont au niveau de la planète. Pas tout le monde, évidemment. Il y a évidemment des inégalités criantes au sein des pays dits développés, mais ou entre les pays et au sein des pays émergents. Voilà. Donc cette promesse-là, d'un côté, toujours plus forte, hein, ça va très très loin. On parle même d'économie réparatrice, c'est-à-dire que non seulement les économies vont plus être salissantes ou polluantes, hein, comme elles l'étaient avant, elles vont être vertes, mais elles vont être même mieux que vertes, elles vont être réparatrices, parce qu'on aura des technologies pour réparer la planète. Alors on peut nettoyer les océans du plastique, on peut faire revivre le mammouth. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des gens... Les Russes, notamment, sont très branchés par ça, parce que comme ils retrouvent de l'ADN de mammouth dans le pergélisol qu'ils font, bah forcément... Puis en plus, le mammouth est un animal, par ailleurs, très sympathique. Et peut-être qu'on pourrait le mettre en gestation chez une éléphante d'Asie. Donc tout ça, ça fait que le mammouth est un bon candidat à la résurrection. Donc finalement, pourquoi protéger les rhinocéros ou je ne sais pas quoi? Parce que de toute façon, on pourra refaire vivre toutes ces espèces disparues. Donc voilà, des promesses très très fortes. Et puis de l'autre côté... Au contraire, on a des signaux alarmants de partout, sur le changement climatique, sur la biodiversité, sur la pollution généralisée. Vous avez vu maintenant qu'il pleut du plastique partout. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines de ça, je crois que c'était publié dans Nature, où au fin fond des Pyrénées, dans une station météo, des chercheurs ont récupéré l'eau de pluie et il tombe en moyenne 365 particules de plastique par jour et par mètre carré, au fin fond des Pyrénées. Donc on est vraiment dans une pollution... globale et généralisée. Alors on ne sait pas trop si le fait de manger ce plastique est très embêtant d'un point de vue santé, mais c'est un autre débat. Et donc avec même des gens qui sont presque à parler de, enfin pas presque, qui parlent d'effondrement de nos sociétés industrielles, du fait que voilà, à force ça ne va pas pouvoir durer. Alors comment faire un peu le tri dans tout ça et pourquoi la question des low-tech? Alors les low-tech, c'est pas le retour à l'âge des cavernes, hein, autant de l'âge de pierre ou à la bougie. Hein, c'est plutôt d'essayer de faire preuve un petit peu de techno-discernement. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire preuve de techno-discernement? En fait, derrière toutes les promesses, alors d'abord, il y a eu depuis longtemps des promesses. Hein, on peut remonter comme ça. Au moins plusieurs décennies et même en réalité plusieurs siècles quand on relit des auteurs un peu anciens comme Condorcet ou des auteurs du 19e siècle comme Marcelin Berthelot par exemple, un chimiste qui promettait la fin dans le monde serait résolue grâce à la chimie, des choses comme ça. Donc les promesses, elles ne sont pas tellement nouvelles. Les promesses d'abondance par la technologie, il y en a toujours eu, l'espèce humaine a toujours eu tendance à chaque fois qu'on inventait un nouveau procédé, que ce soit pour, je sais pas, produire des engrais, pour exploiter l'énergie et les énergies fossiles, etc. Il y a toujours eu ces promesses-là. Et dans les années 50, à partir des années 50, ça a vraiment pris des proportions très fortes. Et si vous prenez le métier de futurologue est inventé dans les années 50. Et donc, ces prospectivistes, qui étaient souvent d'ailleurs des économistes ou des gens issus des sciences sociales, ont très vite promis le bonheur du genre humain par la technologie. Donc dans les années 50, tout le monde espérait que le nucléaire allait être une énergie quasiment infinie, gratuite, pour pas parler de la fusion nucléaire même. Et donc on allait avoir des bases lunaires avant l'an 2000. Les pauvres seraient obligés de se déplacer en avion hypersonique collectif, parce qu'ils n'auraient pas de quoi se payer une fusée personnelle. Enfin, on retrouve dans des rapports très officiels, dans des livres, etc., toute une série de choses assez, assez sympathiques comme ça. Donc les promesses, elles ne sont pas forcément nouvelles. Et d'ailleurs, les promesses d'effondrement ne sont pas tellement nouvelles non plus, parce qu'en face de ces cornucopiens, comme on les appelait, enfin comme les appelaient leurs adversaires ou leurs détracteurs, il y avait en anglais, on parlait de doomsdayers, les prophètes de l'apocalypse. Et eux, en fait, ils disaient qu'on allait aller à la famine, etc. Et bon, quelque part, tout le monde s'est un peu trompé. Et on est toujours un peu dans ce débat aujourd'hui, avec des gens qui nous disent que tout va bien se passer. Et grâce à l'intelligence artificielle, etc., on va faire plein de choses formidables. Et puis, des gens qui nous promettent la catastrophe pour demain ou après-demain. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas catastrophe, c'est un autre débat, mais... ce qui est important quand on prend toujours la question technologique, c'est qu'il faut parler de ressources. Alors, les ressources, en particulier les ressources métalliques, c'est-à-dire des ressources non renouvelables, c'est-à-dire des choses qu'on va aller chercher dans les mines, sous une forme relativement concentrée. Hein, c'est la nature vivante de la planète qui concentre comme ça pendant des millions, des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années parfois, des ressources minières. Alors vivantes parce qu'il y a eu des développements de... Il y a la création de montagnes, la tectonique des plaques, il y a le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène qui fait de l'érosion différentielle, etc., qui va venir lécher comme ça un certain nombre de minéraux et qui va finir par concentrer des choses. Et nous, on va aller piocher dans ce stock, qui est en fait un stock. Donc d'un point de vue purement physique, pour même pas dire mathématique, bah, le principe d'un stock, c'est que vous tapez dans ce stock à une certaine vitesse, et puis à un moment, bah, ce stock, il est terminé. Alors on est très loin d'avoir terminé le stock, très certainement, et le génie humain, si je puis dire, va faire qu'on va sans doute aller chercher ce stock dans des endroits de plus en plus improbables, sous les océans, j'en sais rien, dans des endroits un peu inexplorés aujourd'hui, comme l'Antarctique peut-être, dans le futur. Il y a même des sociétés qui se sont montées pour faire de l'astéroïde mining, oui, aller chercher des trucs dans l'espace. On verra bien ce qu'il en est, c'est assez prospectif. Mais le problème des ressources, c'est qu'effectivement, donc, cette notion mathématique de dire à un moment, forcément, je ne peux pas continuer à faire plus 2 ou 3% de croissance par an, c'est ça qui se passe aujourd'hui, hein, que ce soit dans l'énergie ou dans les ressources. Faut savoir qu'on a... donc, quand on fait plus 2% par an, on ne s'en rend pas compte au début, les premières années, mais en réalité, ça veut dire qu'on va doubler tous les 37 ans, ça veut dire qu'on va multiplier par 7 tous les siècles, et en un millénaire, on va multiplier par 400 millions. Donc c'est évident et absolument absurde d'imaginer que dans 1000 ans, la civilisation occidentale, appelons-la comme ça, soit encore sur Terre, à être toujours avec des économistes qui disent que la croissance c'est l'emploi, je ne sais pas quoi, et qu'on va faire de la croissance, alors qu'on aurait multiplié par 400 millions la quantité d'énergie qu'on consomme chaque année, la quantité de ressources qu'on extrait, etc. C'est pas possible. Donc pour l'instant ça se passe, parce qu'on est au début de cette courbe exponentielle, on pourrait dire, on a multiplié par 2, 3, 4, 5, 10, ça dépend un peu des différents métaux, dans les 20-30 dernières années, notre extraction minière. Et cette courbe de croissance fait que dans les 20-30 prochaines années, on va extraire plus de métaux, pour chacun des métaux, des 60 métaux industriels qu'on utilise, que pendant toute l'histoire de l'humanité, ou presque. Donc on est dans une logique assez massive. Mais il y a un moment où, voilà, sans doute, la courbe devra se retourner et puis on ne va pas tomber en panne demain matin de cuivre ou dans 20 ans, ou de la même manière qu'on ne va pas un jour ouvrir le robinet de sa douche et puis il n'y aura pas de gaz pour chauffer l'eau. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il y a un moment, ce qu'on appelle un pic de production, et puis ensuite on entame une décroissance. Voilà. Alors, du coup, ces ressources, elles sont... même si on pense parfois un petit peu, peut-être par un raccourci, que je sais pas, bah, les énergies renouvelables, bah, y en a pour des milliards d'années, et puis c'est disponible à 10 000 fois peut-être la quantité d'énergie dont on a besoin aujourd'hui. Ce qui nous arrive sous forme d'énergie solaire aujourd'hui, c'est autour de 10 000 fois notre besoin énergétique mondial. Donc on n'a qu'à se servir, on n'a qu'à mettre des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Mais ça serait oublier un petit peu vite qu'en fait, pour convertir, pour capter, pour stocker, pour utiliser cette énergie, ben il faut des métaux, il faut des ressources métalliques, avec d'ailleurs des trucs qui sont parfois, pas toujours, mais soit plus intensifs, c'est-à-dire que comme les énergies renouvelables, elles sont souvent moins concentrées, elles sont plus intermittentes, il faut en installer plus pour produire la même quantité, ben c'est plus intensif, ça utilise plus de métaux, parfois ça utilise des métaux plus rares. Donc du coup, et donc c'est vrai un peu pour tout, c'est vrai pour les data centers d'Internet et du numérique et des logiciels d'intelligence artificielle, c'est vrai pour la voiture autonome ou électrique, etc. Et donc du coup, pour résoudre ce problème-là, les économistes ou les prospectivistes, si vous voulez, vont dire, bah oui, mais il y a quand même une différence très importante entre les métaux et l'énergie, parce qu'effectivement, les énergies fossiles, ça marche de la même manière. Hein. Il reste encore beaucoup de pétrole, il reste encore beaucoup de gaz, il reste encore beaucoup de charbon, trop sans doute d'ailleurs pour les limites de régulation climatique de la planète. Mais c'est pareil, il y a un moment, il faudra bien réussir à décroître, parce que la géologie est ce qu'elle est. Mais pour les métaux, ça ne marche pas du tout comme ça. On n'a pas vraiment un problème de ressources, parce qu'en fait, on extrait ces métaux, mais après, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas brûlés comme un baril de pétrole ou un baril de gaz. Ils vont être stockés. Hein, mon kilogramme de cuivre que j'ai extrait de ma mine de cuivre, ben, je vais en faire un câble de cuivre, je vais en faire un petit connecteur dans un smartphone, je vais en faire un moteur électrique dans un rétroviseur de voiture, que sais-je. Et donc, il est toujours là. Et l'avantage énorme des métaux par rapport, de ces ressources par rapport au plastique, eh bien, c'est le fait que c'est renouvelable. Enfin, c'est recyclable. C'est pas comme les plastiques. Vous savez, au bout de 2, 3, 4, 5 fois, les plastiques, on les fond, ils rechauffent, etc. Les chaînes moléculaires finissent par se casser sous la chaleur. Donc, au bout d'un moment, c'est plus vraiment recyclable. Alors que les métaux, bah, vous refondez un câble de cuivre, vous refaites un câble de cuivre sans aucune difficulté. Donc, d'où cette idée de dire, en fait, on va faire de l'économie circulaire. Et donc, c'est pas grave si on a extrait une certaine quantité de métaux et on continue à le faire. Parce qu'en fait, on a besoin de tous se doter d'une certaine quantité de kilos de cuivre, de tungstène, de je sais pas quoi, de cobalt et autres pour faire nos batteries, nos objets. Puis après, youpla boum, on va pouvoir durer pendant des siècles et des siècles, ou des millénaires, grâce à l'économie circulaire. Voilà. Et malheureusement, en fait, ça marche pas du tout comme ça. Le monde réel et physique, matériel, des objets qu'on conçoit, qu'on consomme, la manière dont on utilise tout ça, c'est juste pas du tout compatible avec l'économie circulaire. Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est qu'on utilise un certain nombre de ressources sous des formes qui ne sont pas récupérables, qui ne sont pas recyclables. On n'arrive pas à recapter la ressource en fin de vie après utilisation. C'est ce qu'on appelle les usages dispersifs ou dissipatifs. Donc, par exemple, on va mettre des colorants blancs qui sont du dioxyde de titane, par exemple, dans les dentifrices, dans les crèmes solaires, dans le papier, dans les vêtements, etc. Et bien, tous ces usages-là ne vont pas être récupérables en fin de vie. Quand vous faites de la vigne, de la culture de la vigne biologique, si vous aimez bien le vin bio, le seul fongicide qui existe pour lutter contre les champignons en vin bio, c'est le sulfate de cuivre, c'est la bouillie bordelaise. Donc en fait, on va prendre du cuivre dans des mines et on va aller l'épandre sur des terres agricoles. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas faire de l'économie circulaire avec ce cuivre. Et puis le deuxième effet qui fait que c'est très compliqué de recycler, c'est le fait de dire qu'une fois qu'on va récupérer la ressource, en fait, tous ces métaux, là, il y en a une soixantaine à peu près dans notre système industriel, qu'on utilise à certains quelques dizaines de tonnes au niveau mondial, puis certains, c'est des dizaines de millions de tonnes. Donc c'est très variable, c'est utilisé en quantité très variable, mais en fait, souvent, enfin, la plupart du temps, on ne les utilise pas sous leur forme pure et simple à récupérer, comme un câble de cuivre, justement, qui est un très bon exemple. Mais souvent, la plupart du temps, on les utilise en alliage. On va mettre une dizaine de métaux différents avec du fer et du carbone pour faire des aciers spéciaux. On va utiliser une quarantaine de métaux différents dans un smartphone, parfois en toute petite quantité. Ça va être des produits dopants dans la carte électronique, dans le microprocesseur, etc. Et quand on va arriver en fin de vie, eh ben, il n'y a personne pour démonter correctement jusqu'au dernier boulon de la voiture. On va juste enlever les pneus, les sièges, et on va broyer et on va la mettre dans un four électrique. Et quand votre smartphone il va arriver en fin de vie, on va enlever l'écran, la batterie, on va broyer, on va le mettre dans un four électrique. Pas tout à fait le même, mais ça fait que du coup, on va mélanger tout ça et que ça coûterait une énergie absolument folle, pour ne pas dire infinie, pour essayer de reséparer tout ce qu'on a mélangé. Et donc, en fait, on va recycler physiquement, mais en pratique, on va perdre les ressources. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est que le petit moteur du rétroviseur de votre voiture avec son câble de cuivre va être fondu avec l'acier de la portière de la voiture et va finir dans un acier de bas de gamme, qui est en général une ferraille, vous savez, ce qu'on appelle les ronds à béton, les ferrailles de bâtiment. Donc en fait, du coup, ce cuivre ne sera plus jamais utilisable, si vous voulez, dans le futur pour transporter de l'électricité, quoi, qui est en gros l'utilisation de base du cuivre. Voilà. Et donc ces deux phénomènes-là, c'est assez important et ça prend des proportions assez gigantesques, notamment dans les nouvelles technologies, dans toutes les technologies du numérique. Pourquoi ? Ben parce que dans les cartes électroniques, etc., c'est des usages justement qui sont à la limite du dispersif, parce que c'est des toutes petites quantités, parfois des milligrammes, des dizièmes de milligrammes, et puis tout ça est un petit peu mélangé. Et c'est vrai pour d'autres aspects, c'est vrai pour les nanomatériaux, c'est vrai pour plein de choses comme ça. Et donc, il y a toute une série de métaux très emblématiques des nouvelles technologies et de l'électronique. Alors, il y a les terres rares, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ne sont pas particulièrement rares, mais bon, peu importe. L'indium qui sert dans les écrans plats, tous les écrans tactiles, les écrans plats, etc. Le tantal, enfin, plein de petits trucs comme ça. Je ne vais pas vous embêter avec la table de Mendeleïev, mais qui sont recyclés à moins de 1% au niveau mondial. Donc autant dire zéro. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, votre smartphone, sur les 40 métaux, on arrive à en récupérer entre 10 et 15, à condition qu'il ne soit pas parti en Afrique de l'Ouest ou au Pakistan, hein, à condition qu'il ait rejoint la poignée d'usines de classe mondiale qui est capable de traiter ce genre de déchets. Et cette usine hyper high-tech est géniale, qui consiste en fait à une série de processus chimiques et métallurgiques, va récupérer 10-15 métaux sur les 40, et encore pas de manière... pas à 100%. Et tout le reste, vous allez me dire qu'est-ce que ça devient ? Eh bien, ça devient ce qu'on appelle du laitier, des laitiers, c'est-à-dire un aspect des trucs un peu mélangés, sous forme un peu de caillasse, de rocher. Et ça va faire en général des sous-couches routières. Enfin, on va utiliser ça aux endroits où on transforme les terres agricoles en pavillons, comme sous-couche pour artificialiser le sol. Voilà, donc c'est ça le fonctionnement qu'on a. Et donc, c'est ça qui est un peu embêtant et qui, moi, m'a fait venir au low-tech. Désolé pour cette longue introduction, mais voilà, ça permet un petit peu de poser le cadre. C'est de dire, finalement, ces promesses de high-tech, elles sont basées sur une consommation accrue de ressources, souvent des ressources d'ailleurs un peu plus rares, un peu plus difficiles à les trouver, à des endroits qui sont du coup des fois un peu moins géopolitiquement stables, je ne sais pas quoi, du platine en Russie, des terres rares en Chine, que sais-je. Et plus on fait des high-tech, plus en fait on s'éloigne de l'économie circulaire. Plus c'est difficile de reboucler le cycle des ressources et de dire je refais une portière avec une portière, je refais une boîte de conserve avec une boîte de conserve. On n'arrive pas à faire ça. Parce qu'en fait, c'est des produits beaucoup plus mélangés, beaucoup plus bourrés d'électronique, etc. D'où l'idée de dire, bah tiens, finalement, si je voulais faire un monde réellement durable, alors durable, j'entends pas durable sur 20 ans, durable sur le long terme, quelque part, eh ben, il faut avoir un usage un peu différent de nos ressources et avoir une conception de nos objets qui soit peut-être différente et pas systématiquement se jeter sur le high-tech. Alors, après, moi, j'ai bien entendu, on sait que le progrès technologique est ce qu'il est et a apporté sans doute plein de choses très très bien. Moi, j'adore le dentiste des années 2010 par rapport... au dentiste des années 1970, hein, y a pas de problème, c'est beaucoup mieux. La radio numérique, je sais pas quoi, enfin, on va trouver 1000 usages médicaux ou autres qui fait que du coup, on veut pas rejeter forcément en bloc ces progrès-là. Il s'agit pas de revenir forcément au rouet de Gandhi et je sais pas quoi, filer à la main et tricoter tous nos pulls au vert. Ça serait, on en aurait beaucoup moins par personne, en tout cas, ça c'est sûr, si on faisait ça. Mais il faut essayer de se poser la question, dire est-ce qu'il y a des choses par contre qu'on peut éviter ou en tout cas dont peut-être dont on pourrait questionner l'utilité sociétale d'un certain nombre d'usages. Alors je sais, j'aime toujours un peu citer mes 2-3 exemples. Par exemple, vous avez vu peut-être qu'il y a cette on nous prédit une explosion des objets connectés. Donc de l'internet des objets. Alors ça a commencé peut-être timidement avec la montre d'Apple, bon, qui a pas trop marché. Puis alors maintenant tous les 3-4 ans ou tous les 5 ans, il y a des rapports officiels qui nous prédisent qu'on va avoir le réfrigérateur qui fait les courses tout seul, etc. Vous voyez tous les objets connectés à internet. Bon, et on atteint des niveaux de un petit peu effrayants aujourd'hui. Enfin des objets, si vous allez vous amuser à aller à quelques salons un peu de la tech, vous voyez, il y en a un peu partout. Enfin, un peu partout. Il y en a en tout cas à Paris et à Las Vegas, par exemple. Bon, vous trouvez des trucs assez improbables. Alors, je ne sais pas, le distributeur de croquettes pour chat connecté. Donc, ce n'est pas le chat qui est connecté, c'est le distributeur. Enfin, le chat peut être connecté aussi, si vous voulez. Donc, c'est un truc... Il y a une balance donc, qui pèse votre chat. Donc, sur smartphone, vous pouvez suivre la courbe de votre chat pendant les vacances. Ça distribue, du coup, la bonne quantité de croquettes. Et il y a une caméra avec un dispositif de reconnaissance faciale du chat pour éviter de nourrir tous les chats du quartier, des trucs comme ça. Vous avez la robe connectée. Alors, la robe connectée, c'est une robe qui est connectée avec votre calendrier électronique et qui vous rappelle que vous ne l'avez pas sortie depuis longtemps, par exemple, ou qui se connecte avec la robe de votre copine pour être sûr qu'à la soirée de l'ambassadeur, vous n'allez pas vous retrouver avec la même robe que votre copine, chose comme ça. Voilà, donc ces trucs-là, est-ce que c'est vraiment aussi utile que le dentiste numérique, c'est une question. Alors les low-tech, du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on pourrait dire bah, un vélo, par exemple, ouais, un vélo, c'est hyper low-tech, c'est hyper résilient, c'est hyper autonome, c'est hyper agile, c'est sobre. C'est beaucoup plus sobre qu'une voiture, évidemment, mais en termes de ressources, même quand c'est un vélo à assistance électrique, d'ailleurs, parce que la taille de la batterie, à la limite, par rapport à ce que j'aurais économisé comme ressources d'une voiture, c'est forcément très bien. Donc, on pourrait dire le vélo, c'est super, c'est low-tech. Bon, mais en fait, un vélo, en vrai, pour le fabriquer, c'est hyper high-tech. C'est difficile de fabriquer un câble de frein, c'est difficile de fabriquer un dérailleur, c'est difficile de vulcaniser du caoutchouc et du butadiène pour faire des pneus. Donc, en fait, en réalité, on voit que c'est très difficile de donner une définition, enfin de mon point de vue, une définition au low-tech ou un label low-tech. On dit, ah oui, ça c'est low-tech, mon stylo il est low-tech ou il ne l'est pas. Parce qu'en fait, il y a une question d'usage, il y a une question d'appropriation par celui qui utilise l'objet, mais il y a aussi la question de la fabrication, et souvent la fabrication, pour différentes raisons, elle est de toute manière devenue high-tech parce qu'elle passe par des grandes usines de fabrication métallurgique ou de ressources, etc. Donc en fait, la frontière est très perméable et je pense qu'on s'épuiserait à essayer de dire ça c'est low-tech, ça c'est high-tech. Et donc moi, j'aime bien dire que les low-tech, c'est une démarche. En fait, c'est un peu comme le zéro déchet. On ne peut pas être 100% zéro déchet, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent qu'ils mettent tous leurs déchets de l'année dans un bocal et qu'après, ils font des œuvres d'art avec. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça, tout à fait, parce qu'en réalité, quand vous jetez 1 kg à la maison, il y a 4 kg qui ont été jetés par l'industrie à côté, et que dès que vous prenez une voiture, par définition, il y a un moment où il faudra faire la vidange ou changer les pneus, et ça va générer des déchets bien, bien plus importants que ce que vous mettez dans votre bocal. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir toute une démarche enthousiasmante et sympathique d'aller vers le zéro déchet. Ben le low-tech, c'est un peu pareil. C'est de se dire finalement, comment est-ce que je peux réduire, en ayant cette réflexion un peu peut-être plus technologique, je ne sais pas, comment je peux réduire mon empreinte ressources ou mon empreinte énergétique avec une autre manière de prendre le problème, c'est-à-dire pas vouloir faire forcément la voiture du futur bardée de technologies, etc., qui va consommer un peu moins parce qu'elle est ultra optimisée au niveau de sa motorisation et autres, mais se dire finalement comment je prends les choses différemment. Alors cette démarche, c'est pour moi trois questions, c'est de poser trois questions principalement. La première, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je produis? Pourquoi est-ce que je consomme quelque chose? La deuxième question, c'est le quoi. Qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce que je conçois? Qu'est-ce que je produis? Et puis la troisième question, c'est le comment. Comment je produis? Alors première question, bah, c'est la question finalement de la sobriété, de la frugalité. On peut appeler ça comme on veut. C'est de se dire finalement, bah, puisque à chaque fois que j'introduis quelque chose dans le cycle économique, dans le cycle de fabrication, je ne peux pas recycler à 100%, je vais perdre de manière irrémédiable des ressources, alors qu'un jour peut-être manqueront à quelqu'un, j'en sais rien, on verra. Le plus simple, c'est de l'économiser. Le meilleur kilowattheure, le plus propre, c'est celui que j'ai pas consommé. La meilleure voiture, c'est celle qui a pas été fabriquée, etc. Alors du coup, là, on peut ouvrir la boîte de Pandore de toutes les idées possibles et imaginables, mais il y en a plein. Alors il y a des choses qui seraient très simples, d'ailleurs, qui commencent à émerger un peu dans l'agenda politique sur, je ne sais pas, par exemple les objets jetables, sur la question des emballages, est-ce que les emballages doivent être jetables ou être consignés, etc., etc. Et puis vous pouvez avoir des choses qui sont peut-être plus agaçantes ou qui seront plus compliquées ou qui demanderont une révolution peut-être plus importante, par exemple dans le bâtiment. Vous savez que le bâtiment, c'est un gros consommateur, un gros émetteur de gaz à effet de serre. La construction aussi est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Le ciment, le béton, l'acier, etc. Bon, la première chose, ça serait de dire pourquoi est-ce qu'on construit? Alors on dit parce qu'on est plus nombreux, parce qu'il faut des logements, je sais pas quoi. En fait, quand vous regardez un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, en fait, on utilise très mal déjà le bâti existant. Une école, par exemple, c'est très très mal utilisé. C'est utilisé 30 semaines par an. Pas le week-end, pas la nuit, pas pendant les vacances scolaires. Et pendant le reste du temps, vous pourriez accueillir des associations, des clubs, j'en sais rien, plein de choses. Et donc, voilà, si vous construisez une médiathèque d'un côté, un club des associations et une école de l'autre, bah, vous avez mal utilisé les surfaces. Et il y a plein de projets qui commencent à émerger sur l'intensification de l'usage des mètres carrés, quelque part, avec des projets assez rigolos, avec, je sais pas, c'est un hôtel la nuit et dans la journée, c'est un hôtel d'entreprise, enfin, oui, avec des lits qui se baissent, des portes qui se ferment, je sais pas quoi, c'est des choses comme ça qui commencent à émerger, donc qui sont une logique de sobriété. Et on peut faire plein de choses dans tous les domaines. Alors évidemment, dans ce cadre-là, il y a la question, du coup, de du fait que pour consommer moins, il faudrait avoir des objets plus durables. Et donc, ça passe à la deuxième, question, qui est la question du qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je conçois. Une fois qu'on a dit qu'on n'allait pas se passer de la machine à laver, en tout cas dans un premier temps, parce que je ne sais pas quoi, ça demanderait une évolution culturelle assez forte de retourner au lavoir et je ne sais pas quoi. Donc on va garder la machine à laver dans un premier temps, enfin, sauf si tu as une autre recommandation, je ne sais pas. Donc à ce moment-là, c'est de se dire comment est-ce que je la conçois la plus robuste possible, la plus réparable possible, pour qu'elle dure effectivement. Alors plus je mettrai d'électronique, moins elle sera réparable, plus elle sera dépendante de pièces détachées qui n'existent plus au bout d'un moment parce qu'il y a de l'obsolescence, etc. Alors que si je reste sur des choses qui sont plus mécaniques, si j'évite des incompatibilités métallurgiques avec les produits que je mélange, je vais aussi optimiser en fin de vie, je vais la rendre plus facile à démanteler et rendre le cycle à reboucler le cycle du recyclage de manière plus efficace. Et puis il y a une troisième question, qui est la question du comment je produis, où là on peut avoir aussi beaucoup de réflexions, et notamment l'arbitrage aujourd'hui qu'on fait entre les ressources et l'énergie d'un côté et le travail humain de l'autre. Dans des pays, en tout cas comme la France, enfin les pays occidentaux, où aujourd'hui, en fait, on vit dans un paradigme du 19e siècle. Ce paradigme, c'est les ressources sont gratuites, en fait. Elles sont pas gratuites, mais elles ne coûtent que le travail et le capital qu'il a fallu mobiliser pour les extraire du sol, éventuellement payer une rente au propriétaire du sol. Mais il n'y a pas besoin de... Voilà, on peut les mobiliser. Alors que, par contre, le travail humain, lui, c'est la partie qui est le plus difficile à mobiliser, sur laquelle on a assis toute la protection sociale, le chômage, les retraites, l'assurance maladie, etc. Et donc, ça donne un espèce de monde assez bizarre où, dans nos smartphones qui coûtent plusieurs centaines d'euros, il y a 2 euros de matière première. Ouais, donc en fait, on pourrait peut-être se permettre de payer ces matières premières un peu plus cher, parce que finalement, ça ne représente rien. C'est surtout de la marge, du design, du travail, de l'amortissement d'usine, etc., de la recherche. Et puis, à l'inverse, à l'autre bout, c'est quand vous avez votre fer à repasser qui tombe en panne, tous les 2 ans, si ça se passe bien normalement, ou votre cafetière, je ne sais pas quoi, si vous voulez essayer de la ramener chez un fabricant de fer à repasser, enfin pas chez un fabricant, chez un vendeur, il va vous dire, mon bon monsieur ou ma bonne dame, rien que de l'ouvrir pour savoir quel est le problème, ça va vous coûter le prix du neuf, autant racheter un neuf. Donc on n'arrive pas à rentrer dans cette logique un peu circulaire ou d'économie de ressources par l'allongement de la durée de vie des produits, parce qu'en fait, on a une main d'œuvre qui est devenue trop chère quelque part et qui ne vaut pas le coup par rapport à des ressources qui, elles, sont encore considérées comme étant extrêmement... qui ont un coût encore extrêmement faible et dont on ne prend pas en compte les externalités, on dirait, disent les économistes. C'est-à-dire que voilà, si vous achetez un ordinateur à 399 euros, compris 1 euro d'éco-participation, ça doit être à peu près ça le niveau. Enfin, qui peut croire en 2019 que le coût environnemental de cet ordinateur, son coût de l'extraction des ressources, la production, la gestion des déchets électroniques, dangereux, etc., que le coût pour la société, c'est 1 euro. C'est absolument ridicule. Donc du coup, il y a cette question-là aussi à se poser. Et aujourd'hui, finalement, depuis toujours, la productivité, la recherche de la productivité, c'est-à-dire faire plus ou faire autant avec moins de travail humain, c'est ce qui a conduit toutes les orientations et les recherches du monde du système économique capitaliste dans lequel on vit. Et aujourd'hui, il faudrait réfléchir un peu différemment et essayer de se dire, est-ce qu'on continue le nez dans le guidon à faire de la productivité et à s'en réjouir ? Peut-être à l'aube d'une nouvelle vague de robotisation ou de livraison par drone ou d'intelligence artificielle qui va remplacer tel ou tel métier. Quand vous remplacez un guichetier ou un agent d'accueil par une borne d'accueil qui certes ne fait pas grève et disponible 24h/24 et je sais pas quoi, vous avez remplacé du travail humain par de la consommation inéluctable de ressources, d'énergie et avec le coût environnemental associé. Et quand demain on remplacera, je ne sais pas quel type de métier, par de l'intelligence artificielle, de la même manière, ça sera là aussi de la consommation de ressources, éventuellement déportée dans des data centers au fin fond du Groenland ou des États-Unis, mais ça, c'est inéluctable et réel. Voilà, donc d'où l'idée de ces low-tech et de dire un appel à une autre innovation, pas juste une innovation technologique, Parce qu'une innovation technologique, enfin, à base de technologie, ben, ça risque de nous envoyer dans le mur, peut-être même un peu plus vite que ce qu'on espérerait, et de penser une autre innovation, qui soit une innovation plus sociale, éventuellement, organisationnelle, culturelle, pour se dire comment effectivement je remplis un certain nombre de besoins du quotidien. Alors pas tous les besoins, parce que je veux dire, ben voilà, on a le domaine médical, personne n'a envie de revenir au 19e siècle. Dans des villes un peu concentrées, comme le sont la plupart de nos villes aujourd'hui, vous n'allez pas débrancher les ordinateurs des systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement, ça se passerait très très mal, ou des transports, ou des choses comme ça. Mais par contre, il y a plein d'endroits où on peut imaginer de faire un développement technologique un petit peu différent et qui finalement nous apporterait un confort encore relativement agréable et acceptable. Voilà. Et sans doute, Pierre-Alain va nous donner quelques idées, quelques exemples. Merci.
Ben, merci pour la transition. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que nous, on entend par low-tech et la manière, le prisme par lequel on aborde le sujet maintenant que Philippe a bien débroussaillé, on va dire, le constat et puis l'aspect plus global. Donc, moi, je travaille au Low-Tech Lab. On est une quizaine dans ce collectif qui est une association de 1901. On est basé en Bretagne, à Concarneau, mais on commence à avoir des petites antennes qui se montent à droite, à gauche. Alors en gros, nous, ce qu'on entend par low-tech, à la base, c'est très sommaire. Nous, on entendait le truc comme des systèmes techniques simples, accessibles et durables, qui permettent de répondre aux besoins de base, sur l'accès à l'énergie, par exemple, à l'alimentation, à l'eau potable, etc. Puis c'est vrai que les travaux faits notamment avec la Fabrique écologique et la nouvelle note qui est récemment sortie, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, permet d'avancer dans le concept, etc. Et on aime beaucoup l'idée que ce soit une démarche, finalement, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est plus de la low-techisation de système, plus qu'effectivement que des low-tech. Donc en gros, pour la petite histoire, nous, on n'est pas entrés dans le monde des low-tech par la même porte que Philippe, a priori, parce qu'on s'est né, nous, cette idée-là au Bangladesh, dans le début des années 2010. Avec l'équipe, on travaillait là-bas à la mise au point d'un matériau composite à base de fibres naturelles de jute pour remplacer la fibre de verre en application composite. Donc, par exemple, pour faire des bateaux ou des chaises ou ce qu'on veut. Et en fait, du coup, alors d'une part, déjà, ce matériau-là, nous, commençait à nous questionner sur l'aspect de low-tech parce qu'effectivement, c'est déjà un peu plus low-tech que de l'utilisation de fibres de verre pour des performances qui peuvent être équivalentes. Et puis la vie, surtout avec les Bengalis, nous a montré en fait plein d'exemples d'ingéniosité locale, de gens qui développaient des low-tech pour répondre à leurs problématiques locales, souvent avec une efficacité meilleure et du coup un impact sur l'environnement qui était également meilleur. Et du coup, le fait de voir ça, ça nous a questionné, nous, en tant qu'ingénieurs, un peu geeks de la technique, on a regardé un peu ce qui se passait à droite à gauche, dans différents pays, notamment, principalement sur les pays de la ceinture tropicale, parce que nous, ce qui nous animait à ce moment-là, c'était plus l'aspect comment est-ce que des gens pourraient répondre à leurs besoins qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette espèce d'ingéniosité locale, mais qui se passait vraiment partout. En fait, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des trucs chouettes, mais on n'en entend pas souvent parler. Et on s'est dit qu'il y avait un énorme potentiel de documenter ces systèmes, de les mettre en avant pour que d'autres personnes puissent se les approprier, les optimiser, etc., etc., dans plein de contextes. Donc c'est un peu par la porte, on va dire, humanitaire qu'on est arrivé dans le monde des low-tech. Alors, depuis, ça a un petit peu évolué. Aujourd'hui, la mission qu'on se donne au Low-Tech Lab, c'est de repérer des low-tech, de les expérimenter, de les documenter en accès libre et de, on va dire, diffuser et inspirer autour des low-tech, mais également de la démarche et de la philosophie low-tech. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de deux projets qu'on a dans l'association aujourd'hui. Alors... Hop, le premier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Corentin de Châtel-Perron qui est le porteur de ce projet-là, c'est l'expédition Nomades des Mers. En gros, c'est le projet qu'on a lancé suite à cette espèce de réflexion qu'on a eue dans les années 2010. Donc c'est un bateau qui fait 15 mètres de long, qui s'appelle Nomades des Mers, qu'on a équipé à Concarneau, qu'on a racheté, c'est un bateau d'occasion, et qu'on a équipé à Concarneau, avec l'idée d'en faire à la fois un outil de rencontre d'inventeurs de low-tech dans de nombreux contextes de la ceinture tropicale, un laboratoire d'expérimentation. En fait, on aime bien, ça c'est encore notre petit côté geek technique, être cobaye nous-mêmes de des systèmes low-tech qu'on découvre, peut-être par peur d'un syndrome de l'imposteur et de promouvoir n'importe quoi. Du coup, le bateau, c'est une sorte de laboratoire où dedans, on va retrouver, quand c'est approprié, des low-tech. Voilà. Donc, par exemple, à bord, on a une culture de spiruline pour avoir un complément de protéines. On a des élevages d'insectes comestibles. Récemment, là, on a mis des mouches soldats noirs. Alors, les mouches soldats noirs, c'est... En fait, on a mis des toilettes sèches. Et pour le coup, les toilettes sèches, c'est pas vraiment adapté à un bateau parce qu'on est hors sol et c'est compliqué de faire du compostage et ensuite de réutiliser le compost. Et on a découvert les mouches soldats noirs. Et alors, c'est des mouches qui font des larves dans de la matière organique. Et les larves, elles vont, en 2 semaines, je crois, elles vont prendre 6000 fois leur volume. Et donc, elles ont besoin d'énormément de nourriture. Donc, ça a une... En gros, ça bouffe entre 50 et 80% de volume. Enfin, ça réduit de 50 à 80% la matière organique qu'on peut avoir sous la main. Donc, en 3 jours, elles ont bouffé 15 jours de toilettes sèches en 3 jours. Donc ça, c'était super intéressant. Et en gros, la personne qu'on a rencontrée qui fait ça, elle, pour le moment, elle est à petite échelle. Donc elle réduit le volume de déchets organiques pour que ce soit plus facilement compostable. Elle produit des larves de mouches soldats noires qu'elle récupère, qu'elle sèche, parce que c'est 40% de protéines qui peuvent servir dans la nutrition animale et c'est 30% d'huile. Donc voilà, c'est juste un petit exemple de... pour montrer que les low-tech, enfin en tout cas nous on considère ça comme une low-tech ou de la bio-utilisation et que ça nous semble pertinent dans pas mal de contextes. Et là la personne justement elle veut passer à l'étape supérieure pour traiter 300 tonnes de déchets par an et que ça fasse pour le coup un business qui tienne la route et qui à la fois associe l'aspect écologique avec celui économique. Alors comme petit exemple, et puis de petites leçons qu'on a aussi appris en tant que novice des low-tech et de l'appropriation de ces systèmes au début, une des premières escales qu'on a fait, c'était au Sénégal, à Dakar, sur la thématique de l'éolien, parce que Dakar, c'est sur une pointe, il y a énormément de vent, etc. Et on a travaillé avec des makers d'un tiers-lieu qui s'appelle Kartiosan, là-bas, sur le sujet de la fabrication d'une éolienne. Et donc nous, on est arrivé avec les plans d'une éolienne qu'on verra en photo tout à l'heure, que sûrement vous connaissez, qui s'appelle l'éolienne Pigott, qui a été mis au point par Hugues Pigott sur l'île de Skorreg en Écosse. En gros, qui est une éolienne autoconstruite de A à Z. On fabrique tout, les pales, le corps, même la génératrice. On s'amuse à faire des bobines en cuivre, on met des aimants au néodyme dedans, etc. Et les plus petits systèmes font 200 watts. Alors on fabrique ça avec les makers là-bas. Et à un moment donné, à la fin de la construction, ils nous disent « Bon, c'est sympa, votre éolienne, déjà, elle est un peu compliquée à construire. En plus, des aimants anodymes, chez nous, ça coûte cher, et puis chez nous, on ne va pas en trouver. » Et en fait, on n'a pas du tout besoin d'autant d'énergie. Quoi. En fait, les primo-oxydants, ils ont besoin de quelques dizaines de watts pour recharger un téléphone et avoir de la lumière. Donc en fait, ils ont complètement mis de côté ce qu'on avait fait, et ce qui était normal. Et ils se sont dit « On va aller voir à Koloban, qui est un endroit justement où on récupère... Enfin, où on envoie généreusement nos déchets électroniques, ça finit là-bas. Donc il y a une sorte de gros pôle de recyclage un peu informel, qui s'est mis en place. Et en fait, ils ont récupéré juste tout simplement des moteurs pas à pas qu'on trouve notamment dans les gros photocopieurs. Et ça, quand on le fait tourner, ça fait de l'électricité. Et c'était suffisant pour répondre aux besoins. Donc en fait, pour moins de 5-10 euros, on peut fabriquer une petite éolienne qui répond aux besoins locaux. Donc ça, c'était une bonne première leçon, la subsidiarité. Un système technique est bien plus pertinent quand il est conçu dans le contexte pour lequel il est fait et pas dans un bureau à des milliers de kilomètres de là. Puis ça permet de questionner également la notion de besoin dont tu parlais tout à l'heure. De quoi, enfin quel est le besoin de base en fait, quel est le bon dimensionnement à faire pour son système. Un autre exemple au cours du périple pour sortir un peu de la technique. On était pas loin de Pondichéry en Inde. Il y a l'entreprise Prakti là-bas qui fabrique des cuiseurs domestiques économes. Il y a encore 3,5 milliards de personnes qui font leur cuisine sur un feu de bois. Et les cuiseurs domestiques économes, c'est une des premières low-tech qui a été développée depuis les années 60 par pas mal d'ONG. Et donc eux, Prakti, ils en produisent. Et alors ils avaient conçu un système de réchaud qui était hyper efficace. Il avait une bouche ronde pour mettre le bois, etc. Puis au moment de la confrontation avec les populations... on préférait le système que vous avez fait avant qui avait une entrée carrée et oui mais il est moins performant, ouais mais en fait on préférait quand même et puis on préférait quand il était brillant et pas mat, etc. Et en fait ça soulève le gros sujet la technique ça fait pas du tout le travail d'appropriation, il y a beaucoup de compréhension du contexte culturel, psychologique, etc. et qui fait du coup intervenir du design notamment, Et en gros, bien, enfin, c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est dit, bah, faut qu'on sorte complètement de notre délire ingénieur technico-centré pour remettre l'humain et l'environnement au cœur du développement des innovations low-tech ou des low-tech. Parce que, en fait, alors, je suis pas sûr que les chiffres soient vrais, mais c'était intéressant ce qu'il disait, c'est qu'en gros, la technique, c'est 20% de la solution, le reste, c'est 80%, c'est bah, le culturel, la compréhension du contexte local, etc., etc. Voilà, en gros, pour deux petits exemples de ce qu'on a vu. Ah, si, j'en ai un autre derrière, là. Hop. Alors, ça, c'est un élevage de grillons qu'on a vu en Thaïlande, juste pour... Oh ouais, ça, j'ai pas précisé. En gros, nous, on s'intéresse au low-tech principalement à l'échelle domestique, individuelle, voire petite entreprise. C'est pas du tout le seul contexte d'utilisation ou de réflexion sur les low-tech, mais nous, c'est par ce prisme-là qu'on est arrivé. Et en gros, ben là, par exemple, ça, c'est un petit paysan en Thaïlande qui, pour compléter son activité, s'est mis dans la production de grillons. Alors nous, ça nous intéresse à la fois pour le modèle économique que ça lui rapporte, et puis également sur la réflexion pour la production des protéines animales. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement ce chiffre, 1 kg de bœuf ou peut-être bientôt 1 kg de mammouth, il faut 10 kg de céréales pour le faire. Au niveau des insectes, on est autour de 2 pour 1, donc pour avoir des protéines animales. La réflexion sur l'entomophagie est hyper intéressante. Alors les grillons, c'est assez marrant. En gros, ça demande vraiment très peu d'investissement. C'est une caisse en bois, dedans, on voit, il met des cartons d'emballage d'œufs. Et bah, les grillons, on les met dedans, ça grandit en 45 jours, au bout de 45 jours, ils se mettent à chanter, puis là, il y a un petit endroit qui est un peu humide, ils se mettent à pondre dedans. Voilà, ils chantent pendant 3 jours, ça fait un petit côté marseillais, puis après, on ramasse tout le monde, on les tue, on peut les sécher, on peut les frire, etc. Et puis, bah, y a les œufs qui sont là et qui permettent de refaire une nouvelle génération, etc. Donc, c'est vraiment très simple, et lui, ça lui apporte un bon complément de revenus. Donc voilà, ça, c'était pour un autre exemple de ce qu'on considère comme low-tech. Et en gros, bah, depuis le départ du bateau, alors en 2016, on essaye... Alors j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'il a une autre mission, le bateau. C'est un peu une sorte de support d'inspiration, on va dire, ou de diffusion de la démarche low-tech. Et pour ça, on travaille en contexte occidental. On travaille pas mal avec Arte sur une série documentaire. Donc la première saison, c'était Concarneau Thaïlande, a été diffusée en novembre dernier. Puis là, on est en train de faire la deuxième saison, qui est Thaïlande-Guatemala. Et à chaque fois, bah, l'idée, c'est de plus aborder la rencontre avec la personne et de mettre en avant pourquoi est-ce qu'elle fait ça, etc. etc. Donc voilà, ce sera sûrement fin de l'année ou début 2020, la prochaine diffusion sur Arte. Et en gros, tous ces systèmes-là, donc on en a vu une quarantaine à peu près depuis le début, on a décidé de les documenter pour que la recette de fabrication et puis également un peu l'explication du contexte dans lequel c'est fait, que chacun puisse y avoir accès pour éventuellement se l'approprier. Et puis bah, pas faire pareil, mais on va dire va peut-être avoir des idées pour appliquer ça dans son contexte. Donc on a lancé sur la base du code source de Wikipédia une sorte de, bon, c'est à petite échelle pour l'instant, mais on appelle ça le Wikipédia des low-tech. En gros, c'est des fiches techniques que chacun est libre de modifier selon ses compétences, etc. Sur lequel on va retrouver comment on fait les systèmes. Alors nous, on met des trucs dessus, mais c'est ouvert à tout le monde, donc d'autres personnes mettent des choses dessus. Et donc bah voilà, il y a des articles qui sont plus ou moins pertinents, mais on espère atteindre un seuil communautaire suffisamment grand à un moment donné pour qu'il y ait une autogestion de la pertinence des systèmes postés sur le site. Et donc nous, on croit beaucoup dans l'open source comme un super moyen de faire de la recherche, de la R&D collaborative pertinente et par itération et relativement rapide une fois qu'on aura atteint un bon seuil communautaire. Et puis c'est un super outil de diffusion. Alors, que ce soit souhaitable ou pas, Internet, maintenant, bah, y a la fracture numérique, qui est en train de réduire à fond. C'est accessible partout. Et bah, on a croisé énormément de gens qui avaient un pied dans le contexte local et puis qui arrivaient toujours à mettre un peu d'argent de côté pour se payer une connexion, pour aller justement geeker sur YouTube, etc., pour faire des low-tech. Donc, on pense que c'est un super outil de diffusion. Alors, Nomade des Mers, il est toujours en cours, mais en fait, on a une équipe quand même qui est basée en France. Et à un moment donné, en fait, on était pas mal sollicité par on est principalement connu en France, donc forcément par des Français pour savoir que c'est bien ce que vous voyez à l'étranger sur les pays de la ceinture tropicale, mais ça peut pas s'appliquer chez moi. Nous-mêmes, on avait cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'une fois de retour du bateau, quand on retournait dans nos vies quotidiennes, on se demandait, je fais pas ma cuisine au feu de bois, par exemple. Comment je peux, moi aussi, peut-être plus justement par un prisme de valeur écologique, comment je peux réduire mon empreinte voilà, en France. Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas des low-tech qui existent pour le contexte occidental ? Et on s'est demandé par où est-ce qu'on pouvait attaquer le morceau. Et on s'est fixé sur l'habitat. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue écologique, en gros, il y a 45% de l'énergie qui est produite en France qui est utilisée par le secteur résidentiel tertiaire, entre la construction et l'utilisation. C'est un des principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Au niveau social, il y a plus de 4 millions de personnes l'hiver dernier qui n'ont pas pu se chauffer correctement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc on voit qu'il y a encore pas mal d'améliorations possibles. Et puis aussi, on pense que c'est un peu chez nous, en fait, qu'on soit même en location, qu'on soit propriétaire, en milieu rural ou urbain, que nous, en tant que citoyens, on est quand même relativement libre de pouvoir agir, que ce soit par la mise en place de bonnes pratiques ou, si on peut, par la mise en place de systèmes techniques en complément. Et on pense qu'en tant que citoyen, quand on commence à être un peu convaincu de certains trucs, etc., ça nous permet de faire peut-être des choix politiques ou de consommation qui peuvent être meilleurs et peut-être par petites gouttes comme ça commencer à faire avancer la machine un peu plus sérieusement. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est intéressé d'abord à l'habitat. On a lancé le Low-Tech Tour France, c'était en 2017. Et pendant un an, on est allé rencontrer 12 inventeurs de low-tech un petit peu partout, sur l'accès à l'énergie, alors que ce soit au chaud, d'électricité, etc. Sur l'accès un petit peu à la gestion des déchets, pas trop à l'alimentation, parce que pour le coup, on pense que la production alimentaire n'est pas forcément à voir à l'échelle individuelle, mais plutôt communautaire, collective, voilà, plus grande échelle. Enfin bref, voilà. Alors là, ce qu'on peut voir justement sur la photo, c'est l'éolienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors on fait des erreurs, on essaye d'apprendre au fur et à mesure. L'éolienne, elle contient notamment des aimants anodymes. On trouvait ça sympa de pouvoir faire son électricité soi-même. En fait, on se rend compte finalement que même si c'est un truc auto-construit, l'impact écologique derrière, il n'est pas tip-top parce que le néodyme, il faut l'extraire et puis derrière, en fin de vie, il faut bien en faire quelque chose. On fait des bobines de cuivre qui sont noyées dans de la résine. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas un impact écologique terrible, terrible. Donc voilà, toutes les low-tech qu'on a découvertes ne sont pas forcément toutes bonnes selon notre définition, mais ça nous a permis de nous expertiser un petit peu plus sur ce qu'on pensait bien ou pas. Alors, d'autres exemples. Alors là, à chaque fois qu'on a rencontré un inventeur, on a fait une vidéo tuto et une notice écrite. Donc là, c'était pendant la construction d'un petit poêle de masse, parce qu'il y a encore pas mal de contextes en France où il est possible de se chauffer avec du bois. Et souvent, les grandes cheminées, enfin, ou les cheminées qu'on a dans les maisons, c'est un rendement un peu pourri. Et puis en plus, on n'utilise pas très bien les cheminées. On aime bien voir des petites braises qui dégagent de la fumée pour chauffer les pieds. En réalité, il faut faire vraiment une flambée bien franche pour venir faire des belles flammes, pour venir brûler le maximum de composants, pour dégager le maximum d'énergie du bois qu'on brûle. Et donc l'avantage de ce petit poêle de masse, alors celui-ci il est fait dans un bidon, mais on peut le faire de manière complètement différente, il a un très bon rendement, et puis en fait il accumule l'énergie dans sa masse, plutôt que de chauffer sa pièce d'un seul coup à 30 degrés, et puis ensuite plus rien. Là en fait on peut dimensionner le truc pour que pendant 12 heures par exemple, suite à une flambée de 2 heures, on vienne restituer la chaleur dans la maison de manière... pas linéaire, mais pas loin, quoi, comme un radiateur. Et donc voilà, typiquement, ça c'est pour nous une low-tech qui est intéressante pour certains contextes en France. Hop, là on peut le voir en feu. En fait, il a l'avantage, il utilise le principe du rocket stove, donc on fait une flamme qui est très longue et qui vient chatouiller les fumées relativement longtemps pour brûler le méthane et l'éthanol, etc., qu'on va continuer à trouver dans les fumées d'habitude. Ce qu'on voit ici, là, c'est des chauffe-eau solaires qui sont construits à partir de grilles de frigo recyclées. Enfin, recyclé. Alors, ça, c'est pareil. C'est hyper intéressant d'utiliser le solaire en thermique et pas que en électrique. Un panneau solaire photovoltaïque, aujourd'hui, qui sort de l'industrie, si on est sur des rendements allez, de 20%, on est capable de transformer 20% de l'énergie du soleil en élec. Et ça nécessite des métaux, etc. Et puis, pareil, on ne sait pas, niveau recyclage, on n'est quand même pas trop mal, mais on n'a quand même pas un impact écologique si bon que ça. Alors que c'est très facile... en low-tech, de transformer l'énergie du soleil en chaleur pour faire de l'eau chaude, par exemple, ou chauffer de l'air. Alors, ce système-là nous intéressait parce qu'on arrive à avoir au mètre carré, on est autour de 20 euros du mètre carré, quand dans le commerce, on peut vite arriver de l'ordre du millier d'euros. Alors, le seul truc quand même auquel il faut faire gaffe, c'est que les grilles de frigo, si on s'amuse à les récupérer directement sur le frigo et laisser le gaz s'échapper dans l'atmosphère, pour le coup, là, on vient complètement flinguer notre bilan écologique. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir, en fait, selon la manière dont c'est fait. qu'on peut être bien ou pas. Mais n'empêche que c'est une super low-tech et globalement, il faut utiliser le solaire en thermique et pas forcément en électrique. Alors, suite à toutes ces découvertes, on avait envie d'aller plus loin parce que notre vision sur le sujet des low-tech commençait à s'élargir et puis maintenant qu'on avait découvert les systèmes techniques, on se posait la question de comment est-ce que les gens peuvent concrètement se les approprier. Et en fait, on s'est rendu compte que d'une part, on avait envie d'aller plus loin sur la connaissance des systèmes techniques en termes de rendement, etc. etc. On avait envie de savoir concrètement pour les gens, est-ce que pour le portefeuille, on peut vraiment avoir des économies derrière, parce que c'est un levier hyper important. Enfin, en tout cas, on l'a identifié comme très important. Et le troisième, alors il y a l'aspect écologique qui nous intéresse également beaucoup pour pas faire pire que bien. Et l'autre levier qui nous semble très important, ou du moins critère très important à étudier, c'est l'aspect d'ergonomie. Parce qu'en fait, et ça on l'a clairement identifié aussi, plein de gens, enfin les gens ne vont pas passer à l'action si c'est contraignant d'utiliser des low-tech. Par exemple, les toilettes sèches, c'est facile de faire caca dans un seau et mettre de la cire dessus. Par contre, quand il faut amener le seau dans le tas de compost, là ça pose plus de problèmes. Et donc on a envie de comprendre, alors ça c'est un peu un exemple extrême, mais on a envie de comprendre selon les systèmes, où se met le curseur en fait. Du coup, on a lancé le projet d'Habitat Low-Tech, donc c'est cette petite maison. Alors, pour la définir, en gros, c'est sur la base d'une tiny house. Une tiny house, c'est une petite maison sature bois sur un plateau roulant. On ne promeut pas du tout les tiny houses, c'est juste que pour nous, c'était un bon, une sorte de grosse mallette pédagogique qu'on pourra déplacer une fois qu'on aura fini notre expérimentation. Mais ça a des désavantages parce que, par exemple, on n'a pas une grosse isolation. On utilise encore du pare-pluie et des freins à vapeur qui sont des matériaux issus de la pétrochimie, etc., etc. Mais bon, c'est un compromis qu'on a fait parce que manque de moyens, manque de temps, et puis que c'était un bon outil pédagogique, on est parti là-dessus. Et on a voulu y installer ce qu'on avait identifié comme un peu notre best-of de low-tech, adapté au contexte occidental, pour pouvoir passer plusieurs temps dedans. Donc là, on est en pleine expérimentation, on n'a pas du tout fini. On a commencé depuis le 1er avril, et il faut qu'on traverse un peu tous les types de saisons pour avoir des données intéressantes sur les critères écologiques, de retour sur investissement, et puis ergonomiques. Donc là, l'idée, c'est qu'avec Clément, là, on est dedans pour l'instant, et après, on aimerait bien que d'autres types, parce que nous, du coup, on a sûrement le regard un peu biaisé, on n'est plus très objectif, d'autres types de personnes puissent passer dedans pour nous faire des retours sur justement les toilettes sèches. C'est pas possible, quoi. J'ai pas envie de sortir le seau. Par contre, le chauffe-air solaire, qui est le truc avec les ardoises qu'on voit en façade, là, qui chauffe l'air l'hiver, et qui permet de gagner, enfin, grâce au soleil, et qui permet de gagner en moyenne 6 à 7 degrés de chauffage dans sa maison. Et ben, en fait, ça c'est intéressant parce que ça demande aucun entretien, ça fonctionne tout seul, ça souffle tout seul quand il fait beau, quand il y a de la chaleur dedans, ça ferme tout seul quand il fait trop froid dans le système, etc. Donc voilà, l'idée c'est que pendant plusieurs mois, on va tester tout ça et ramasser des données. Alors juste par rapport au dimensionnement, ou du moins la démarche qu'on a utilisée pour dimensionner l'habitat, on est pas mal parti, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, avec la démarche négawatt en fait. C'est que le premier truc à faire quand on veut passer à l'action, parce que c'est souvent la question qu'on pose finalement, comme ouais, mais c'est bien beau, mais comment on fait? En fait, c'est de questionner ses besoins, c'est la sobriété. Par exemple, sur le cas du chauffage, le premier truc à faire avant de s'amuser à vouloir mettre un chauffe-air solaire ou même un nouveau chauffage, etc., c'est est-ce que j'ai besoin de ma maison à 21 degrés ou à 19 degrés, par exemple? Ou est-ce que ma chambre elle a besoin d'être à 20 ou à 16 degrés, etc. Ça, c'est le premier truc que chacun est capable de faire, en fait. Et rien qu'en faisant ce truc-là, on peut réduire à fond notre impact, même si derrière, on ne met pas de système particulier. Le deuxième point qu'il faut aborder, c'est l'aspect de l'efficacité, toujours sur le chauffage. Maintenant que j'ai envie d'avoir ma maison à 19 degrés, comment je fais pour consommer le moins d'énergie possible pour avoir ces 19 degrés? Donc le truc qui paraît évident, c'est l'isolation, par exemple. Ou alors, par exemple, au niveau des sources d'énergie possibles. Est-ce que vaut mieux utiliser de l'électricité pour chauffer sa maison ou est-ce que vaut mieux utiliser par exemple le solaire thermique, sachant que tout confondu, 80% de l'énergie qu'on utilise dans une maison, c'est pour faire de la chaleur. Et à titre d'exemple, on avait fabriqué un petit vélo générateur pour un peu que les gens sentent un peu ce que c'est que les watts. Donc en gros, quand quelqu'un de lambda pédale, il fait à peu près 50 watts. Donc par exemple, pour recharger un smartphone, il va falloir pédaler 5 minutes. Si on veut se faire bouillir un litre d'eau à la bouilloire, il va falloir 40 personnes avec nous à pédaler pendant le temps que l'eau a besoin de chauffer. En fait, ça permet un peu de sentir les watts. Et si on continue sur l'aspect de l'électricité, par exemple, si on prend la chaîne globale de l'électricité, souvent c'est produit dans une centrale nucléaire ou à charbon, etc. Et là, en fait, en moyenne, allez, ça a un rendement de 30%. Ça veut dire qu'il y a 60% de l'énergie qu'on met en entrée de l'usine qui se barre en chaleur. Il y a 30% qui part dans les tuyaux sous forme d'électricité. Et puis après, nous, si on est en électrique chez nous pour le chauffage, on retransforme ça en chaleur. Donc en fait, alors je dis pas qu'il faut avoir, qu'il faut changer les trucs, mais ça permet juste de se rendre compte en fait, sur quelle source d'énergie choisir. Et le troisième point ensuite, c'est c'est l'aspect énergie renouvelable. Comment, maintenant que je sais la quantité d'énergie dont j'ai besoin, comment je fais pour l'avoir? Et donc en fait, l'exemple de l'électricité est venu à ce moment-là. Donc en gros, voilà, on est parti, du coup, on a fait ça pour tous les postes de consommation dans la maison, que ce soit l'électricité, la chaleur pour se nourrir, la chaleur pour avoir de l'eau chaude, pour le cycle de l'eau dans la maison, etc. etc. Et voilà, ça nous a permis de dimensionner tout. Ensuite, en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on peut vivre confortablement, mais de manière plus sobre. Et du coup, maintenant, c'est en route. Et ça amène, par contre, la réflexion de comment je consomme également. Par exemple, là, on a une petite phytoépuration donc, qui permet de faire l'assainissement de l'eau. Et du coup, quand on a ça, ça nous permet de nous questionner sur les produits qu'on met dans notre évier. Par exemple, si on veut que nos plantes aient vivent et les bactéries qui sont dans le sable pour pouvoir assainir l'eau, on va peut-être arrêter de mettre de l'eau de Javel dans l'évier, par exemple. Et du coup, ça, en fait, ce qui est cool avec cette expérience, du moins, puisqu'on s'est complètement mis hors réseau exprès pour avoir un peu la main sur tous les paramètres, c'est que ça nous reconnecte avec ce qui se passe derrière une prise électrique, ce qui se passe derrière un robinet, ce qui se passe derrière tous les postes de consommation en fait. Et en gros voilà, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de résultats concrets parce qu'on vient complètement, ça fait pas très longtemps qu'on a démarré. En tout cas vous pouvez retrouver sur YouTube en fait, on fait une petite web série qui nous permet de suivre au fur et à mesure et d'apporter justement un peu de chiffres etc etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. Et on fera un rapport technique à la fin de l'année ou à la fin de l'expérience pour justement présenter selon les critères les différents résultats. Et en gros, voilà pour les exemples que j'avais à vous présenter. Merci.
Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle suite à ces interventions stimulantes et intéressantes.
Merci. J'étais très intéressée par ce que vous avez dit tous les deux. Et il me vient une petite question là pour l'instant, mais je suis sûre qu'il m'en viendra plein d'autres. En ce qui concerne cette maison, l'eau, vous avez une certaine quantité d'eau et elle est fixe et elle est recyclable complètement, y compris pour la boisson ou...
Non, alors le cycle de l'eau, on est parti, alors dans notre contexte, on n'a pas accès à un puits ou quoi que ce soit, donc on récupère l'eau de pluie. On a une cuve de stockage dans le petit placard là qu'on voit à l'extérieur de environ 300 litres, on a 80 litres qui est dans le ballon d'eau chaude et on a une citerne souple sous la terrasse qui fait 1,5 tonne. Cette eau là en fait sur le sujet de l'eau en fait c'est assez intéressant parce que sur 148 litres alors en moyenne que consomme un Français, il y a moins de 5% qui a besoin d'être potable pour l'alimentation et enfin boire et manger. Donc, alors nous ce qu'on fait c'est qu'on boit l'eau de pluie sauf qu'on a juste un petit filtre céramique juste pour les quelques litres qui ont besoin d'être potables et le reste on le fait pas, sachant que c'est pas légal de faire ça encore, mais on est passé outre parce qu'on avait envie de faire ça. Et ensuite ça va dans les eaux grises qu'on produit, que ce soit la douche ou l'évier, ça va dans la phytoépuration et c'est remis dans l'environnement. On a la chance d'être en Bretagne donc il fait beau plusieurs fois par jour, il pleut aussi du coup plusieurs fois par jour.
Oui, c'est pratique.
Et alors en fait, on va être confronté à un problème, on s'en est rendu compte récemment. C'est que tant qu'on était en phase hiver, ou du moins jusqu'au printemps, notre surface de captation était suffisante. Par contre, cet été, on risque d'avoir des soucis, donc il va falloir qu'on double la surface de captation. Parce que là, en théorie, on peut ramasser 7000 litres, allez, à la grosse, en prenant les chiffres, les prévisions, on peut ramasser 7000 litres d'eau sur l'année, sachant qu'un Français moyen, c'est 54000 litres d'eau consommée par an. Alors nous, on a réduit à fond. Par exemple, on a des toilettes sèches, ça fait 20% de l'eau qui est consommée, enfin, du coup, en moins consommée. On va tester une douche à recyclage qui devrait permettre de diviser par 5 la consommation d'eau, etc. Mais même en faisant un peu en mettant en pratique un peu des bonnes démarches et les low-tech, on va quand même pas avoir assez de surface de captation a priori, donc il va falloir qu'on augmente. Mais par contre, on réutilise pas l'eau qui sort de la phytoépuration, elle repart dans l'environnement.
Vous avez parlé des insectes, des mouches, je crois, permettaient de diminuer le volume des toilettes sèches, c'est ça ? Et si j'ai bien compris, vous réutilisez ces mouches. Voilà, ma question est, est-ce que sur le plan de la santé, il n'y a pas de risque de transmettre des maladies, dans le principe. Voilà.
Alors, en théorie, normalement, les larves, elles ont la capacité de détruire beaucoup de pathogènes, tout ce qui est bactéries, etc. Mais ce qu'on fait, en fait, et ce qui est fait dans la majorité des cas d'utilisation, c'est que les larves sont ensuite utilisées dans la nutrition animale pour augmenter, pour pas que ce soit un cycle direct. Trop court, en fait. Ouais. Et sur le bateau, c'est pareil, c'est pas utilisé direct en consommation comme ça. Il faut augmenter le cycle pour être sûr, quoi.
Ça n'est pas pour autant sûr, hein. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, il y a des choses qui se transmettent d'espèce à l'autre, et je pense que vous le savez aussi, et même d'espèce d'insecte à des humains. La maladie de Lyme, par exemple, il faut être très prudent avec ça. Mais bon, en tout cas, je salue l'effort que vous faites parce que ça me semble prodigieux et en plus très excitant, je crois. Et est-ce que vous avez un rapport avec les makers ou quelque chose comme ça, des gens que j'ai vus récemment à la Villette qui exposaient toutes sortes de choses? Parce que je me souviens de ça, la façon d'économiser l'énergie quand on fait de la cuisine, en protégeant une casserole, en l'isolant par un truc relativement simple qu'on peut acheter à part. Voilà.
Bah alors, ce qu'on appelle les makers, en gros, c'est les bricoleurs, quoi. Ça, c'est un nom pour ça définir les bricoleurs. Pardon. Et je sais plus, on a déjà été à la Villette, c'était peut-être ça. On a déjà été à la Villette, donc c'était peut-être ça
peut-être.
Que vous avez vu. Il y a Panda Fuji qui est une petite entreprise qui fabrique ces jupes isolantes pour casseroles, là, justement.
Peut-être. En tout cas, j'ai trouvé les gens qui faisaient ça très sympa. j'ai posé assez de questions maintenant aux autres.
Ok, bonjour. Merci beaucoup pour l'exposé. Je veux juste savoir, il est comment la maison dedans ? En fait, en dehors, comment ? Intérieur, c'est comment cette maison ?
C'est petit, ça fait 13 mètres carrés.
Non, ça veut dire, mais vous n'avez pas en photo d'intérieur ?
Là, non, mais si vous allez si vous allez voir la web série, là, vous verrez à l'intérieur comment c'est fait. Mais en gros, c'est assez simple. Il y a deux mezzanines qui permettent d'avoir deux lits.
En hauteur.
Ouais. Et en gros, la salle de bain et toilette, c'est dans l'alignement du chauffe-eau là, qu'on voit l'espèce de rectangle le plus allongé.
C'est derrière.
Là. Et le reste, c'est une sorte de grande pièce.
Il y a une petite cuisine. Pas en personne ou deux personnes ?
Ouais, au début, on était à deux dedans. En fait, on s'est vite marché sur les pieds. Du coup, là, on alterne une semaine sur deux.
Ouais, mais en fait, la moitié de temps, vous vivez dehors quand même. Il y a la campagne autour.
Non, on vit pas dehors.
Non, parce que vous sortez pour faire la cuisine, tout ça. On peut faire
on fait tout dedans. Tout peut être fait dedans.
D'accord. Mais à Paris, beaucoup de gens habitent à cette taille-là.
Oui, 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 c'est sûr.
C'est des studios américains, avec la cuisine américaine.
Ça rejoint une question que je voulais poser, donc j'en profite. Effectivement, on voit cet exemple qui est à Concarneau. Mais voilà, est-ce qu'à Paris, ce serait envisageable, dans une grande ville, dans des appartements, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Certainement pas tout ce que vous proposez et que vous expérimentez là. Mais j'imagine que dans le Tech Lab, il y a certains sujets qu'on peut traiter.
Il y a clairement des trucs qu'on peut pas, qui sont pas. Déjà, en fait, être hors réseau, En ville, ce serait une connerie, par exemple, parce qu'avoir un parc batterie chez soi, ça ne servira à rien, et puis ce serait pas bon pour l'impact environnemental. Là, nous, c'est juste qu'on a eu l'occasion de récupérer tout un parc batterie d'un vieux bateau, donc en fait, voilà, c'était bon. Après, bah, tout ce qui est, par exemple, le chauffe-eau, même un poêle, etc., bah, ça, on ne met pas dans un appartement. Par contre, par exemple, dedans, on a fait exprès de pas avoir de frigo. Alors d'une part parce que ça nous doublait notre surface de captation de panneaux solaires, et puis parce qu'on avait envie d'essayer de vivre sans frigo, en repensant un peu l'utilisation du garde-manger. Alors je pense que dans un appart à Paris, ce sera peut-être compliqué de se passer de frigo, mais ça permet de re-questionner la taille du frigo dont on a besoin. Et en fait, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, un des vrais premiers trucs, si chacun veut agir, c'est pas forcément de vouloir mettre des low-tech dans son appart, mais c'est juste de re-questionner ses besoins, en fait. Comment on le chauffe, comment est-ce qu'on consomme. Rien qu'en faisant ça, on peut réduire à fond l'impact, en fait. Et aussi, c'est bon pour son portefeuille, accessoirement.
Juste pour ajouter, je veux dire qu'à Paris, il y a certaines choses qu'on ne peut pas choisir. Par exemple, la Linky, qui vous force à... Vous voyez, vous force d'avoir la Linky, c'est un compteur connecté, électrique, qui consomme énormément, parce qu'il est toujours branché, il n'est jamais éteint. Hein. On ne peut jamais l'éteindre. Et on ne peut pas, il vous oblige de l'avoir. Moi, j'ai essayé de refuser, mais... Et vraiment, vous voyez, ça veut dire tout Paris, il est un petit peu creusé, il y a des trous partout parce qu'ils sont en train de mettre plus la 5G qui arrive aussi.
Ouais.
Et personne ne questionne, en fait, ils les mettent de force.
Ouais, mais Linky, par exemple, il vous oblige pas à avoir un gros frigo, par exemple. Non, mais je veux dire, voilà, en fait, il y a des trucs qui sont forcément des contraintes, mais après, si chacun revoit ses besoins, dans son contexte, il y a pas mal de choses à faire. Alors, effectivement, là, nous, c'est un cas extrême, mais. Juste la manière de consommer, en fait, rien qu'en en réfléchissant à ça, on peut agir beaucoup, quoi.
Merci. Bonjour. Je voulais savoir combien coûtait le bâtiment et combien vous économisez combien vous économisez au total.
Alors, pour le coût de l'économie, bah, on attend la fin de l'étude, donc je ne peux pas te répondre pour l'instant.
D'accord.
Pour le prix du bâtiment, ça c'est une autre contrainte des tiny house, c'est que c'est pas si pas cher que ça. Alors nous, on l'a construit nous-mêmes, donc on n'a pas de main-d'œuvre, mais juste en matériaux, on en a pour 25 000 euros, dont 3 000 euros de low-tech. Mais alors, selon nos calculs, si on parle que des low-tech sans parler du bâtiment, parce qu'en fait, nous, on a pris cette coquille-là, mais les low-tech, on considère qu'elles peuvent être adaptées. Ça, c'est plus, on va dire... adapté au contexte maison individuelle rurale, par exemple, avec 3000 euros de low-tech, selon nos calculs, on peut en quelques années facilement être rentable. Quoi. Mais la coquille de maison, tu vois, c'est 25 000, tu as même d'autres constructeurs où tu es plus autour de 30 000 euros de matériaux, et tu peux faire presque un x2 si tu fais construire si c'est à la main d'œuvre avec. Quoi.
D'accord. Merci, c'est bon à savoir. Et là, c'est une question pour le monsieur à la chemise blanche. Je veux savoir, parce que je suis arrivé un peu en retard, je suis navré. Est-ce que vous représentez un site éventuellement comme monsieur avec son low-tech ? Un site internet, oui, éventuellement, où on peut y aller ?
J'ai pas de site internet, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter. Je suis totalement à l'âge de pierre pour ça, je suis désolé.
Non, je voulais savoir si votre association avait un site.
Non. Je ne représente pas l'association ce soir. Enfin, donc, voilà. J'ai une tuité personnelle.
Ok, merci.
Du coup, j'en profite pour rappeler que M. Biwix a écrit des ouvrages. Donc, on peut retrouver certains de ses propos dans l'âge des low-tech, par exemple, et d'autres livres que vous avez à la bibliothèque, notamment. Et puis, comme l'a cité Pierre-Alain, il me semble, il y a également la Fabrique écologique qui vous propose un certain nombre de données autour des low-tech.
Bonjour, je suis en école d'ingénieur à l'UTC, je ne sais pas si vous connaissez, et je suis dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Et on organise souvent des conférences sur des sujets comme l'écologie ou d'autres comme l'économie circulaire et d'autres sujets comme ça. Du coup, on aimerait bien vous inviter. En fait, depuis longtemps, j'essaye de contacter monsieur Philippe Birix, sauf que je n'ai pas trouvé son contact. Du coup, bah, j'étais contente qu'aujourd'hui, il y ait cette conférence pour savoir si c'était possible qu'un jour, bah, vous deux, vous puissiez venir à l'UTC donner une conférence.
Bah, on en parlera en off, ouais.
Oui, c'est une école d'ingénieurs. Ah, Université technologique de Compiègne. Voilà. Et du coup, moi, je suis plutôt dans la filière des bâtiments. Et je trouve que la formation, elle n'est pas assez axée justement sur le low-tech, mais surtout sur les bâtiments intelligents, les bâtiments connectés. Et du coup, je voulais un peu vous demander, vous pensez que c'est quel cours que je devrais entreprendre pour aller plus vers cette direction des low-tech.
Enfin, je sais pas, mais en tout cas, par expérience, le secteur du bâtiment, les architectes, les entreprises, un certain nombre de maîtres d'ouvrage aussi sont assez sensibles à ces questions-là. Et alors, il y a des questions au-delà d'ailleurs de l'aspect purement technologique, il y a des questions de résilience, par exemple. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage publics s'intéressent beaucoup à cette question-là, de dire finalement, je fais un smart building, mais avec des données qui sont stockées, je ne sais pas trop, dans un data center finlandais, contrôlé par une multinationale états-unienne, et avec des capteurs qui ne marchent pas tout le temps, et puis de toute façon, les gens ne savent pas les utiliser, et on ne fait pas les gains qu'on espérait faire. Il y a des belles bases de données statistiques qui montrent que, en général, toute l'efficacité qu'on espérait faire, elle n'est pas à la hauteur de la conception. Et donc, c'est un secteur qui est assez sensible à ça. Et on voit que des cabinets d'architectes qui commencent à réfléchir à low-tech, on voit des gens qui viennent un petit peu perturber le cahier des charges initiales pour se dire justement quelle est l'intensité d'usage de mon bâtiment, quels vont être réellement les comportements des gens à l'intérieur. C'est-à-dire que les solutions ne sont pas juste techniques, elles sont socio-techniques, elles sont aussi avec les comportements des utilisateurs. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des cours là-dessus, mais en tout cas, c'est un secteur qui est plutôt... je ne vais pas dire en avance, parce qu'il n'y a pas de notion d'être en avance ou en retard, mais qui est sensible à ces questions-là. Plus peut-être que toute l'industrie plus traditionnelle, et qui est voilà, c'est difficile d'aller parler de low-tech à je sais pas, Airbus, quoi. Enfin, on voit bien que ça va être plus compliqué pour eux de s'emparer du concept pour plein de raisons. Ça peut être des raisons de sécurité, ça peut être plein de choses, alors que dans le bâtiment c'est vrai que c'est un endroit où on peut faire preuve un peu de créativité, et c'est vrai qu'il y a cette poussée un peu numérique et du bâtiment intelligent, mais il y a aussi un peu une poussée sur la question de comment on conçoit, de ne pas prendre en compte seulement l'énergie grise et le CO2, mais de prendre aussi la question des ressources, de prendre la question de l'obsolescence de ces bâtiments, parce qu'il n'y a pas que les objets qui sont obsolescents, il y a les bâtiments aussi. Donc les lieux, on sait qu'ils vont devoir changer de fonction. Comment est-ce qu'on peut les faire plus modulaires et dans le temps être capable de transformer des logements en bureaux ou en autre chose? Donc tout ça, c'est en train d'émerger un peu, quand même.
Oui, bonsoir. Je me faisais une petite réflexion en vous écoutant, parce qu'en fait, ce que vous proposez, ça s'adresse, on va dire, à plutôt un public de niche, enfin ceux qui sont bien conscients des choses qui se passent. Et je me dis, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un effet de masse, c'est-à-dire que un maximum de monde adopte c'est low-tech. Enfin, j'aime pas trop ce terme, parce que j'irais plutôt l'utilisation de technologie, mais plutôt en mode éclairé, puisqu'en fait on connaît l'utilisation des high-tech, mais en connaissant très bien les high-tech, mais on a préféré utiliser d'autres technologies, donc j'irais plutôt des technologies éclairées, ou si vous préférez un terme en anglais, j'irais enlightenment technology, par exemple. En fait, la réflexion que je me faisais, c'était, est-ce que vous pourriez plutôt inviter des sociologues ou des philosophes? Parce qu'en fait, le problème qui est posé de nos jours, c'est plutôt l'hubris, c'est-à-dire la démesure avec laquelle on consomme l'énergie. Je pense que la plupart des gens ne connaissent même pas trop la règle 3, à savoir la quantité des kilowattheures qu'on consomme. Donc, monsieur, vous avez dit très bien, regardez, on mettait un vélo pour dire, bah, écoutez, pour avoir... je ne sais pas, vous voulez chauffer quelque chose, combien de kilowattheures il vous faut. Donc, de faire prendre conscience que justement, enfin, des désirs illimités, enfin, avec une énergie facile de porter, bah, ça ne peut que nous mener à la perte, puisque l'énergie est l'énergie sous forme d'énergie fossile, c'est du stock, et forcément, ça va. Si on veut vraiment avoir un niveau de confort élevé, forcément, on voit la catastrophe. Donc, la question que je vais me poser, c'est est-ce que vous pourriez pas inviter, en plus, moi j'ai trouvé ça très bien, puisque vous, je sais que vous êtes journaliste, vous avez écrit votre bouquin que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je vous félicite d'ailleurs. J'ai lu ça fait 6 mois, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, vous présentez les données et j'ai trouvé ça très bien. Donc, faut prendre le temps de lire les implications que ça engendre, le fait de consommer à l'excès de l'énergie. Et vous, à côté, bah, je trouve ça très bien que vous mettiez, justement, vous regardez ce qu'on peut faire, on peut vivre convenablement en utilisant des lots de technologies. Et voilà, je me disais, est-ce que vous ne pouvez pas inviter des sociologues ou justement ou des philosophes en expliquant que justement l'utilisation de tout ce qui est une utilisation démesurée pour le confort, en fait, ça ne mène pas tellement à grand-chose. Oui, ça me fait rappeler l'épisode, vous savez, de Bouddha, lorsque, vous savez, c'était un prince qui a été élevé dans le confort absolu, puis un jour, il découvre que, en fait, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, donc il décide de mener une vie d'ascète. Mais bon, je ne demande pas aux gens, à toute la planète, d'arriver à ce niveau-là, mais c'est vrai que de dire, bon, bah, est-ce que le dernier objet de l'IoT qui est connecté, etc., est-ce que ça me sert sur le profond? Est-ce que c'est parce que si dans le fond du cœur, la personne elle est convaincue que ça ne servira à rien, donc du coup, faut pas l'utiliser. Mais si on est dans le processus en disant, bah, écoute, le dernier gadget technologique qui fonctionnera en mode connecté 24 heures sur 24, vous aurez les données tout le temps, ça ne fait que flatter l'ego, et qui en fait, in fine, ne sert à rien. Voilà, moi personnellement, je bosse dans un stack. Enfin, moi, je suis ingénieur en informatique et moi, je fais tourner des serveurs 24 heures sur 24. Je sais très bien que je pourrais réduire de moitié ce que j'utilise dans le data center. Mais comme mes clients demandent à ce que soit ça marche de 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils se connectent à toute heure, on a des systèmes ultra répartis, on dit load balancé, je vois que la moitié de l'infrastructure, on ne l'utilise pas. J'ai des baies de 32 kVA, 32 kWh. Et si les gens acceptaient de dire entre minuit et 4h du matin ou 6h du matin, on n'a pas besoin de ce service-là, j'ai réduit de 50% quasiment le service. Enfin, les gens ne se rendent pas compte en disant oui, avec mon application, etc., je l'utilise. Vous ne vous rendez pas compte l'impact énergétique que ça engendre derrière. Enfin, moi, je vois les factures passer, etc. Je dimensionne mes serveurs pour que ça entre dans les data centers. Je me dis, mais si on veut continuer à avoir le confort en disant je veux du 24 sur 24 avec un fonctionnement à 99,9% sur l'année, je dis voilà ce que ça implique comme coût. Et moi, je vois maintenant, après avoir vu votre bouquin, là, j'essaie de faire un peu plus attention justement aux chiffres des kilowattheures consommés. Exactement par année et par serveur, et c'est juste faramineux, en fait. Voilà. Est-ce que, comme suggestion, vous pourriez peut-être impliquer des sociologues ou des philosophes, justement pour montrer peut-être que l'hubris poussé à bout, c'est vraiment une vacuité.
Une réponse en 30 secondes sans être sociologue, anthropologue, politologue ou psychologue ou philosophe. D'abord, merci pour cet exemple sur le numérique. S'il y a bien un secteur où le fait de revoir son cahier des charges permet d'abaisser la facture, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, on est en train de se dire qu'Internet va faire péter le système énergétique mondial, si ça continue comme ça continue, parce que malgré tous les progrès technologiques qui sont faits, l'effet rebond, c'est-à-dire le développement les données dont on a besoin, qui doublent tous les 12 à 18 mois, fait que la facture globale explose. C'est un secteur où on pourrait diviser, non pas par 2, mais par 100 globalement, le besoin énergétique et de ressources. Il suffit d'augmenter le nombre d'années de vie des ordinateurs, d'éco-concevoir les logiciels et les pages web, de réduire la redondance, de réduire le sans-fil par rapport au câble, là où on n'a pas besoin de mobilité. Enfin, il y a plein de manières de faire. Et là, effectivement, quand on discute avec des professionnels et qu'on prend l'ensemble des trucs, on pourrait diviser par 100 la facture. En ayant grosso modo le même service, peut-être un peu moins de vidéos de petits chats, parce qu'à la fin, 60%, 70% du trafic Internet mondial, c'est Netflix et puis les vidéos peer-to-peer ou YouTube. Bon, après, sur les questions précédentes sur l'Uber, etc., oui, bien sûr, enfin, vous avez tout dit, c'est pas une question, mais juste en commentaire, un, les économistes, aussi obtus soient-ils, disent exactement la même chose que vous, c'est-à-dire qu'à un moment, alors c'est pas tout à fait l'ascétisme, mais c'est de dire qu'à un moment où la courbe bonheur PIB elle finit par plafonner et qu'en gros au Qatar ils sont pas plus heureux qu'au Danemark, loin s'en faut, même si leur PIB par habitant est bien plus important qu'au Danemark. Donc il y a un moment au début quand on sort de la misère et qu'on commence à avoir la première ampoule, ben là oui le PIB il est corrélé au bonheur, mais après ça plafonne assez vite. Donc effectivement quels sont les besoins? Voilà. Quels sont nos besoins fondamentaux, on pourrait dire, ou pour mener une vie bonne ou être heureux. Et là, du coup, ça pose la question de l'hubris, mais surtout de la question du désir mimétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain n'a pas de désir autoconstruit. On désire ce que les autres désirent, en fait. C'est une approche anthropologique qu'on peut contester, mais principalement, on désire ce que désire l'autre. En fait, et en général, d'ailleurs, on ne peut pas désirer trop haut. Moi, je fantasme pas sur la vie des milliardaires. Je sais qu'elle est inaccessible. Par contre, je vais discuter sur les dernières vacances aux Maldives de mon voisin, la taille de sa voiture, le fait qu'il a rajouté des mètres carrés à son pavillon et je sais pas quoi. Voilà. Donc, du coup, on sait qu'on est, manipulé dans le. On s'auto-manipule, on pourrait dire, ou le système dans lequel on est se manipule. Ça s'appelle la publicité, ça s'appelle le fait qu'on mène un certain nombre de valeurs, de rivalité justement mimétique dans la consommation plutôt qu'ailleurs, et que voilà, c'est mieux d'avoir une grosse voiture, un gros logement, je sais pas quoi, un gros salaire pour être dans la compétition sociale, quoi, plutôt que d'apprendre par cœur Tite Live, quoi. C'est aujourd'hui c'est comme ça, voilà. Mais ça peut évoluer. Ce sont des référentiels culturels, ce sont des référentiels moraux. Ils ont évolué dans le passé, hein. On ne vit pas dans la même société qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Ils peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre. Il y a plein de choses qui évoluent tous les jours, hein. La température à laquelle on considère qu'il faut se loger en hiver, est-ce que c'est 23 ou est-ce que c'est 17? Bah, il y a une époque, c'était 17 et même c'était 12 et personne ne se posait la question. C'était des référentiels qu'on avait. Donc ça peut bouger dans un sens ou dans un autre. Et puis il y a une dernière composante, c'était la 5G que mentionnait Madame tout à l'heure. Enfin, c'est ce qu'on nous impose aussi. C'est-à-dire pourquoi on a besoin de la 5G? Enfin, moi, je ne fantasme pas particulièrement sur le fait de télécharger un film en 3 secondes plutôt qu'en 15 minutes. Ça, j'ai connu le monde où on ne téléchargeait même pas du tout de film, donc je survivrais. La 5G, elle arrive parce qu'il y a tout un système, il y a des enjeux industriels derrière, qui sont des enjeux sur l'Internet des objets, sur la voiture autonome, en fait, voilà, mais qui sont des besoins qui n'existent pas encore et qu'on va créer et puis qui ensuite deviendront indispensables. Voilà, ça c'est toute l'aventure technologique des 2-3 derniers siècles.
Bonsoir. Petite question. Est-ce que vous pensez que l'État doit imposer certaines restrictions, par exemple sur le gaspillage de ressources telles que les terres rares, comme ça s'est fait par exemple aujourd'hui sur l'automobile où les constructeurs automobiles sont contraints de produire à terme, de construire des voitures consommant peu d'essence? Et si oui, sous quelle forme?
Ça nous emmènerait trop loin par rapport à mon agenda, mais en quelques mots, moi c'est vrai que j'ai une tendance un peu jacobine Khmer Vert, je reconnais volontiers. Moi, je pense que la puissance publique, alors l'État, on peut dire l'État, mais ça peut être la puissance publique à différentes échelles, hein, pas juste étatique, a encore un rôle important à jouer, parce que effectivement, même si dans le milieu écolo ça pose débat, parce que l'État est en collusion avec le capitalisme, donc c'est finalement il est aussi responsable que les méchantes grandes entreprises, je sais pas quoi, dans l'état de la planète. Donc moi je pense que non, Il y a toute une série d'activités possibles et d'actions possibles de l'État et de la puissance publique. Le premier, c'est la question normative et réglementaire. Je pense qu'effectivement, on vit dans un système qui est réglementé, on vit dans un système avec des normes. Aujourd'hui, je ne peux pas rouler avec un char d'assaut dans la rue du Renard à côté. Bon, donc est-ce qu'on peut-être demain on peut dire qu'une voiture de 2 tonnes pour transporter 70 kilos, ben non, c'est trop gros. Peut-être ça devrait être 1 tonne 2 maximum, et puis au-dessus, ça serait affreusement taxé ou voire interdit. Donc il y a ce côté un peu qui peut être un peu liberticide, mais la société est déjà liberticide, c'est normal, c'est comme ça qu'une société peut fonctionner. Il faut se fixer des normes et des limites, justement. Donc ce pouvoir-là, il y a un deuxième pouvoir qui est un pouvoir prescriptif. L'État, les collectivités territoriales, les villes, les régions achètent beaucoup de choses, achètent des bâtiments, achètent des services, achètent des objets, achètent des voitures. Et donc, par le pouvoir prescriptif, par le pouvoir des cahiers des charges, peut influencer les choses peut-être mieux que les consommateurs que nous sommes parfois, parce que moi, je suis tout seul, donc je voudrais bien l'ordinateur éco-conçu ou le yaourt à la fraise et à la myrtille des bois bio, mais qui n'existe pas, puisqu'on ne me le propose pas. Et si je suis l'État et que j'en achète des milliers ou que j'ai toutes les cantines de France, je peux commencer à un peu influencer des filières par mon cahier des charges. Et puis, il y a un pouvoir fiscal, ce dont je parlais tout à l'heure avec comment je fiscalise les ressources, comment je fiscalise le carbone, comment je fiscalise l'énergie et comment je fiscalise le travail et d'autres choses. Donc là, j'ai un pouvoir très fort aussi. Hein, donc, juste pour se refixer un peu l'ordre de grandeur, les charges sociales en France, c'est 450 milliards d'euros et la taxe carbone pré-gilet jaune, c'est 4 milliards. Donc c'est un centième des charges sociales. Donc forcément, à la fin, c'est moins cher de consommer de l'énergie et d'émettre du CO2 que d'employer des gens dans des hypercafés, d'employer des gens dans plein d'endroits. Et puis il y a un pouvoir d'exemplarité et d'entraînement. Qui est de dire, voilà, est-ce que finalement je fais la Startup Nation et je soutiens des initiatives disruptives à coup de blockchain, de numérique, je ne sais pas quoi, parce que ça fait hype et que c'est génial et que c'est ça qui va nous emmener dans le 21e siècle, ou est-ce que je soutiens d'autres types d'initiatives aussi? Bon, il y en a une partie, c'est déjà fait, hein, mais on pourrait aller plus loin dans le soutien à des mouvements zéro déchet, dans le soutien à des recycleries, ressourceries, des ateliers, que sais-je. Il y a plein de choses qui peuvent se faire dans les territoires. Donc voilà, moi je crois à cette... Je ne dis pas que c'est une condition suffisante, il faut aussi d'autres choses, il faut que les citoyens aient envie, il faut qu'il y ait une poussée culturelle, il faut que ça marche dans le système international. Donc il y a plein d'autres contraintes, mais ça me paraît une condition à minima nécessaire, sinon j'ai peur qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle et à la masse critique dont vous parliez tout à l'heure.
Il y a encore des questions avant qu'on termine. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir en tout cas. Pour continuer le débat, moi je vous propose un atelier qui aura lieu le 4 juillet prochain de 18h à 21h avec le collectif Usinette, un atelier qui s'appelle Expression directe et low-tech. Je vous invite à regarder sur le site de la BPI et sur le programme pour en savoir plus. Il est encore possible de s'inscrire. Un grand merci à Philippe Biwix et à Pierre Alain. Et merci à vous tous d'être venus. Très bonne soirée.